Emmanuel Goncho est président de la Fondation Maracuja. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui, puisque nous parlons tous les mardis des invités ONG. Comment vous allez, Emmanuel?
Je vais bien, merci.
Alors, dites-nous, Emmanuel, pourquoi Fondation Maracuja?
Oui, Maracuja, parce que nous avons beaucoup apprécié la signification du nom de ce fruit, qui signifie le fruit de la passion. Et nous, nous avons traitement de la passion vers les logiciels libres. Les logiciels libres autour desquels nous avons concentré nos objectifs dans la lutte contre la fracture numérique.
Donc, vous voulez rendre, comme on dit, tous les jeunes à la page de l'outil informatique?
Oui, oui. C'est, en fait, le phénomène de la fracture numérique, par définition, c'est l'inégalité d'accès aux outils, en fait, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une inégalité qui se remarque beaucoup plus entre les pays du Nord et les pays du Sud, comme on le dit communément, mais qui est encore plus renforcée par des logiciels qui ne sont pas libres. Il y a beaucoup de projets qui existent actuellement pour lutter contre cette fracture numérique, mais ce sont des projets qui sont à l'avance voués à l'échec parce que sans l'utilisation des logiciels libres, on ne peut pas sérieusement lutter contre la fracture numérique.
C'est une bonne chose, en tout cas, aider les jeunes à connaître ou à utiliser l'outil informatique, mais il y a un autre problème, c'est peut-être par rapport à l'accès. Comment ils doivent faire finalement pour avoir accès à cet outil informatique dont vous mettez à leur disposition?
Voilà. Par exemple, lorsqu'on parle de la fracture numérique, en général, l'outil le plus visé, c'est l'ordinateur, et si on va beaucoup plus en profondeur, c'est l'Internet. Aujourd'hui, même si à domicile, il n'est pas toujours très possible d'avoir Internet parce que ça vous coûte pas moins des $100 par mois, mais au moins il y a déjà beaucoup de cybercafés à proximité des maisons où les jeunes vont notamment envoyer des emails ou naviguer sur d'autres sites pour apprendre ou pour se divertir. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant parce que à ce niveau-là, il se limite par exemple juste à l'utilisation, à une utilisation un peu superficielle de l'outil informatique. Alors, notre objectif, c'est de créer des centres de proximité dans des quartiers où les jeunes viendront apprendre beaucoup plus profondément à utiliser l'outil informatique. Et pourquoi pas, dans l'avenir, pour les projets qui viennent, pourquoi pas offrir la possibilité d'avoir des ordinateurs à des prix très bas. Parce qu'on a déjà aujourd'hui des ordinateurs à des prix très, très bas, mais il faut encore essayer de voir par rapport à la bourse de tous ces jeunes comment ils peuvent obtenir tous ces ordinateurs. Donc, on crée des centres de formation de proximité et aussi nous aiderons à l'avenir les jeunes à obtenir des ordinateurs à des coûts beaucoup plus bas.
Je viens de parler des centres. Alors, combien vous en avez à Kinshasa pour un début?
Nous avons pour l'instant une année d'existence seulement et puis nous avons un seul centre de formation à Yolo et c'est avec ça que nous évoluons avec des jeunes de Yolo.
À Yolo où précisément?
Sur l'avenue Kikwit, R45, dans le quartier Kampindi, à Yolo Sud. Et nous avons là un cybercafé. Le cybercafé, le service offert au public est bien sûr payant, mais les formations par contre, l'initiation à l'informatique et aussi à l'Internet est gratuite offerte au public.
Emmanuel, vous avez dit que c'est il y a une année exactement que vous avez créé cette ONG, cette Fondation Maracuja. Pour ceux qui nous prennent en compte, sachez que Emmanuel, quand tu es président de la Fondation Maracuja, alors dites-nous, ces jeunes ou les gens qui viennent avoir de vos services, vous en recevez combien et comment ça se passe avec les formations?
En fait, lorsque nous recevons des gens, d'abord nous analysons leur profil, est-ce qu'ils ont déjà un ordinateur à domicile ou ils n'en ont pas. Ceux qui ont un ordinateur à domicile, nous installons pour eux les logiciels libres à la maison et ensuite ils continuent de suivre avec nous la formation dans nos centres, dans notre centre. Plutôt, ils continuent de suivre avec nous la formation dans notre centre, tout comme ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui suivent la formation, nous les exhortons toujours à se procurer un ordinateur parce que lorsqu'on ne sait pas s'appliquer et qu'on a appris, on oublie très rapidement. Alors, la séquence de formation, elle a commencé à accélérer il n'y a pas longtemps, parce que déjà dès le début, il fallait pallier à une difficulté que nous avions, c'était des ressources. Jusqu'à présent, nous sommes encore autofinancés, et à travers les cybercafés et d'autres, et les cotisations des membres, que nous sommes parvenus à nous acheter quelques machines. Au début, la fréquence n'était pas forte, et puis on n'avait pas fait une grande publicité pour ça, juste en contactant des personnes très proches, hein, un nombre très limité à qui nous avons offert ces formations. Et depuis un moment, nous nous sommes ouverts au public, et nous recevons comme ça par semaine environ 4 personnes par semaine à qui nous donnons de l'initiation à l'Internet.
Emmanuel, parlons à présent des membres de l'ONG. Vous êtes à combien au total et comment vous évoluez, vous répartissez les tâches au sein de l'ONG?
Nous sommes pour l'instant à 4. Il y a un communicateur, Axel Danso. Nous avons un qui est chargé de la comptabilité, Placide, et puis Placide Cachala. Nous avons un autre, Placide Cachala, il est chargé de la comptabilité, mais aussi des formations. Il y a Cartouche Tumba, qui est aussi informaticien, et lui, il s'occupe beaucoup plus de la caisse et des activités lucratives de la fondation pour l'autofinancement. Et enfin, moi qui suis président, qui m'occupe aussi de la section informatique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est lié aux services informatiques, je prépare les formations informatiques, et puis la politique de la fondation, les choix que nous faisons des logiciels, hein, la politique de la fondation au niveau de l'informatique, les choix des logiciels que nous faisons, c'est que nous proposons aux gens, et c'est un peu ça.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes à 4, et le financement provient de l'équipe, c'est-à-dire de 4. N'avez-vous pas pensé à faire appel ou à demander de l'aide à des organismes ou à d'autres ONG qui peuvent vous soutenir dans ce projet que vous avez?
Oui, nous avons fait ce qui est au cœur des débats actuellement. Ce que nous avions d'abord souhaité, c'était de commencer nous-mêmes, essayer de mobiliser le peu que nous avions pour avoir un bon début, et ensuite écrire un projet qui serait efficace, parce que on ne peut pas écrire un projet lorsque nous n'avons pas encore suffisamment étudié le problème, lorsque nous ne savons pas encore quelle serait la conséquence de l'adoption d'un tel comportement vis-à-vis du public ou d'un autre. Alors nous avons suffisamment pris le temps d'apprécier notre projet, de voir comment le mener, et maintenant que nous avons pris la décision de nous ouvrir vers d'éventuels partenaires qui pourraient nous soutenir, et c'est pour bientôt que...
Et par rapport aux membres, est-ce que vous pensez seulement vous limiter à 4 ou vous pensez agrandir le nombre de membres de l'ONG?
Voilà, les 4 membres, en fait, ce sont des membres statutaires. Oui. C'est ceux qui sont à la base de la création de la fondation. Mm-hmm. Nous avions préféré rester d'abord à 4 pour mieux analyser les problèmes, mais maintenant nous nous ouvrons petit à petit à d'autres personnes qui pourraient devenir des sympathisants et qui peuvent offrir de leur temps ou de leur connaissance à la fondation.
Et quelles seront alors les conditions à ce moment-là? Est-ce qu'il faut nécessairement connaître l'outil informatique pour être membre de l'ONG?
Non, ce n'est pas obligatoire, parce qu'au niveau de la fondation, il y a beaucoup de services qui ne sont pas... On a besoin de beaucoup de services qui ne sont pas forcément informatiques. Ce sur quoi nous insistons beaucoup plus, c'est l'intégrité, l'honnêteté et puis l'amour du travail. Mm-hmm. Parce que les ONG, les SBL actuellement au Congo, il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui poursuivent vraiment les objectifs qu'ils se sont fixés. Il y en a très peu. Et le travail, il n'y en a pas beaucoup, alors beaucoup de jeunes préfèrent aller dans des ONG où ils espèrent trouver un gain facile. Il suffit d'être un peu beau parleur, d'écrire un joli projet qui est financé, et puis on se partage l'argent et on attend qu'un autre partenaire puisse vous apporter de l'argent. C'est ce qui a fait que nous ne puissions pas écrire un projet durant toute cette année, hein, durant toute cette période pendant laquelle nous avons essayé d'asseoir le projet, et puis de voir comment on peut intéresser d'autres partenaires. Donc, pour être partenaire, les personnes peuvent faire la demande, tout comme nous pouvons proposer à d'autres personnes de devenir membres de la Fondation Maracuja, mais nous insistons beaucoup plus sur la qualité des membres. Nous ne prenons pas n'importe qui. Il faut aimer le travail pour lequel on va s'engager. Il faut être désintéressé. désintéressé. Donc, je veux dire que nous aimons pour servir les autres et non pour nous servir soi-même. Il faut être désintéressé. Et puis, il faut être compétent dans le domaine pour lequel on veut aider la fondation à avancer.
Mm-hmm. Emmanuel, autre chose, c'est par rapport à vos services. Parce que vous avez dit que vous, en dehors du cyber où les gens viennent naviguer en payant une somme, mais les formations, par contre, elles sont gratuites. Alors, comment vous faites pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent entrer en contact avec vous et avoir de vos services?
Pour l'instant, comme je l'ai dit, nous sortons d'une période qui était assez difficile, vu que nous défrions nos-mêmes possibilités pour pouvoir avoir le matériel pour donner ces formations. Nous n'avions pas encore suffisamment annoncé. Mm-hmm. Et même à l'endroit où nous avons placé le cybercafé, on n'avait pas encore annoncé des formations, les données qu'à quelques personnes à gauche et à droite. Et maintenant, nous avons quand même mis une annonce, de plus que dans le secteur où nous sommes, parce que actuellement, nous ne sommes pas en mesure de recevoir beaucoup de personnes pour la formation. Nous n'avons mis qu'un petit tableau où nous annonçons la formation gratuite et l'initiation aussi. Et dans l'avenir, nous comptons nous offrir encore davantage. Éventuellement, nous ouvrons encore d'autres centres de formation à travers la ville. Nous sommes en train d'ouvrir un site internet qui pourra nous servir aussi de portail web par lequel nous allons communiquer avec le reste du monde sur internet.
Voilà, je crois que tous ceux qui nous écoutent sont fixés sur ce que la Fondation Maracuja fait exactement. C'est pas seulement les jeunes en fait qui sont intéressés, qui sont concernés par cela.
Ce n'est pas seulement les jeunes, oui, mais la tranche la plus active, puisque notre objectif, je dois le rappeler, c'était la lutte contre la fracture numérique par les logiciels libres. Si nous avons choisi les logiciels libres en particulier, c'est parce qu'il est beaucoup plus facile pour les jeunes de faire une migration depuis un système informatique vers les autres plutôt que par des personnes qui les ont utilisés pendant beaucoup d'années, qui ne savent utiliser que ça. Il y a une certaine résistance. Alors il est beaucoup plus facile d'aller par les jeunes que par d'autres personnes, mais les autres tranches d'âge ne sont pas du tout exclues. Et quand nous disons jeunes, c'est que nous disons les jeunes de tout âge. Parce qu'il y a aussi, par exemple, dans nos écoles, les cours d'informatique qui sont dispensés. Mais après une enquête que nous avons menée, nous avons interrogé beaucoup des formateurs en informatique dans des écoles du Congo. Mais ce que nous avons pu remarquer, malheureusement, c'est que d'abord que le programme est le programme du cours d'informatique est laissé à la libre appréciation du formateur. On ne veille pas beaucoup à la qualité des formateurs, parce que ceux qui engagent l'enseignant, bon, vous avez un diplôme en informatique, oui, bon, d'accord, vous allez vous occuper de telle et de telle autre classe, vous donnez des cours d'informatique, écrivez votre programme et puis commencez les cours. Alors, le résultat, c'est que le programme n'est pas efficace, le programme n'est pas adapté du tout. Dans la plupart des écoles, on va se rendre compte que les ordinateurs ne sont utilisés peut-être qu'à partir du secondaire. Et pourtant, ces ordinateurs peuvent servir des cours depuis la maternelle jusqu'à même à l'université. Mm-hmm. Même à l'université. Alors nous avons beaucoup de logiciels comme ça qui sont libres et gratuits. Mm-hmm. Les logiciels sont libres et gratuits et qui peuvent être utilisés depuis la maternelle jusqu'en tout cas aux humanités. Donc c'est pour dire que les jeunes de tout âge sont suffisamment servis en informatique par la Fondation Maracuja.
Voilà, je pense qu'ils sont servis, ils sont véritablement servis. Et vous avez anticipé tout à l'heure en parlant des difficultés.
Oui.
C'était au niveau des finances, puisque vous cotisez tout seul.
Oui.
En dehors de cette difficulté-là, quelle autre difficulté vous avez encore ou que vous rencontrez fréquemment?
La plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est l'acceptation des logiciels que nous apportons. Mmh. Parce que les logiciels libres ne sont pas très médiatisés, notamment parce qu'ils ne sont pas toujours commercialisés.
Mmh.
Alors, nous savons que le monde d'aujourd'hui vit au rythme des bénéfices, alors beaucoup de gens ne prêtent pas beaucoup attention aux logiciels libres et les médias ne parlent beaucoup plus que des logiciels que nous appelons communément propriétaires, des logiciels propriétaires qui ne sont pas libres. Alors lorsque nous allons vers les gens, nous leur proposons les logiciels libres. Peu importe les performances de ces logiciels, peu importe le prix de ces logiciels, ils sont toujours un peu trop hésitants, je dirais même beaucoup hésitants, parce que connaissent pas ces logiciels, et puis ils disent, oui, mais s'ils sont si performants que ça, s'ils n'attrapent pas des virus comme vous les prétendez, mais pourquoi est-ce que les gens ne les utilisent pas? C'est ça le grand problème. Vous aurez beau expliquer, il faut en tout cas répéter, insister, pour voir quelques personnes accepter et adopter ces logiciels qui leur rendent pourtant un très grand service. Mm-hmm. Et une fois qu'ils ont adopté ces logiciels, nous n'avons pas encore vu qu'ils fassent marche arrière pour revenir aux logiciels propriétaires qui les favorisent, qui enfoncent en principe la facture numérique, les logiciels propriétaires agrandissent la facture numérique parce qu'il faut d'abord les acheter. Ensuite, lorsque vous les achetez, leurs auteurs vous disent qu'il ne faut les utiliser que sur un seul ordinateur. C'est ce qui signifie que si vous avez 5 ordinateurs à la maison, il faut acheter 5 fois ce logiciel. Alors imaginez les coûts. Et encore une chose, c'est que par rapport à la facture numérique, même si par définition on dit que c'est un problème qui touche beaucoup plus les pays en développement que les pays développés, mais en réalité ce n'est pas le cas. Même les pays développés sont frappés par la facture numérique. Un article que j'ai lu sur internet du quotidien Le Monde faisait état, parler des enseignants qui se plaignaient de la sous-utilisation des matériels informatiques dans les écoles. Il y a des ordinateurs, oui, mais l'ordinateur de lui-même ne peut rien faire. Il faut emmener des logiciels qui puissent accompagner les cours et qui puissent rendre ces ordinateurs vraiment utiles. Mais même en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou dans n'importe quel autre pays d'Europe, les logiciels, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent tellement cher que le gouvernement n'alloue pas des budgets pour les acheter. Et c'est qu'on a observé depuis 2007, depuis le deuxième semestre de 2007, c'est que de plus en plus de gouvernements commencent à se tourner vers les logiciels libres, à la fois dans les administrations publiques et même dans les écoles.
Alors, des projets.
Le dernier pays à avoir fait ce pas est été la Macédoine. Oui. Mais heureusement aussi qu'en Afrique, il y a aussi d'autres pays qui commencent à faire le pas vers les logiciels libres, tels que le Nigeria qui a adopté les logiciels libres pour l'enseignement à l'école. Il y a encore d'autres pays qui projettent de le faire, comme notamment l'Angola et beaucoup d'autres en Afrique. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages à utiliser de logiciels libres qui sont gratuits, la plupart. Ce n'est pas une condition pour être libre, la plupart sont gratuits. Et ils sont libres dans le sens qu'on peut les utiliser, tout le monde peut les utiliser. Hein, on ne vous limite pas qu'il faut les faire pour ceci ou pour cela, il ne faut l'installer que sur tel nombre d'ordinateurs. Et puis les codes de ces logiciels sont donnés. C'est-à-dire que ce logiciel-là ne vous a pas plu. Vous prenez les codes, vous voyez la façon dont leurs auteurs les ont fait, et tout ça c'est légalement, et puis vous les modifiez, vous les adaptez à votre problème, à vos propres problèmes, à votre propre situation. J'ai toujours illustré par un petit exemple cette situation-là, c'est que il y a par exemple un logiciel pour la maternelle, où on enseigne beaucoup de choses, entre autres les saisons. Ces logiciels ont été conçus par des Européens qui vont vous parler des 4 saisons. Pourtant ici, on n'en avons que 2. Alors ils vont apprendre l'hiver, l'été, l'automne et le printemps pendant qu'ils ne vivent pas ça. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est qu'on prend un logiciel, on le paye, et puis il modifie ce logiciel-là légalement. Personne ne va le traduire en justice, et même encouragé de le faire. Il le modifie légalement, c'est qu'on ne peut pas faire avec des logiciels propriétaires pour se traduire en justice. Vous paierez beaucoup d'amendes, et s'il faut demander à leurs auteurs de les modifier, il faudra que ces auteurs-là analysent d'abord est-ce que ça nous fera des bénéfices que de modifier ces logiciels tels que monsieur tel ou madame tel a demandé. Et après, vous voyez que ça prend beaucoup de temps. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, et il y a beaucoup plus d'avantages dans les logiciels libres que dans les autres logiciels propriétaires.
Voilà, l'ensemble, monsieur Monde, allons vers la fin de notre entretien. Ce n'est pas pour une dernière fois, il y aura des prochaines fois sûrement.
Des projets, c'est que la Fondation Maracuja espère grandir, beaucoup grandir, pour être en mesure de servir un très grand nombre. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin de nos services. Nous espérons étendre nos centres de formation à travers la capitale et même au-delà des frontières de Kinshasa, dans d'autres provinces. Nous espérons à l'avenir donner des cours dans des langues locales, parce que c'est un autre problème que nous rencontrons aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui parle forcément bien français. D'autres ne comprennent pas très bien, même s'ils peuvent écouter un mot à gauche ou à droite, quand ils ne comprennent pas très bien. Mais pourquoi ne pas leur enseigner dans leur langue? Alors, c'est sont des projets qu'entretient la Fondation Maracuja, mais aussi nous avons même des projets de développement de logiciels. Aujourd'hui, lorsque nous observons la carte du monde, nous nous rendons compte que ce sont beaucoup plus les pays de l'Occident qui contribuent à l'informatique plutôt que les pays de l'Afrique, par exemple, ou des autres pays en développement. Et c'est une situation qui peut être changée. C'est une situation qui peut être changée si nous-mêmes, d'abord, nous fournissons un effort, c'est-à-dire nous adoptons les logiciels libres. Nos développeurs auront très facilement la possibilité de concevoir des nouveaux logiciels qui pourront aider beaucoup de personnes dans le monde, au-delà des frontières du Congo, qui pourra aider beaucoup de personnes dans le monde. Et puis, nos enfants, et puis même dans l'univers professionnel, nous aurons beaucoup de logiciels à utiliser. Donc, le projet de la Fondation Marcel est d'avoir une équipe de développement. L'objectif, c'est d'en avoir une d'ici une année, mais nous allons voir, peut-être si nous y arriverons, ce sera une très bonne chose. Et puis la formation, on va offrir beaucoup plus de formations dans le pays.
Alors, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes, ces jeunes en particulier, qui vous suivent présentement sur Radio Capi et sur internet sur www.radiocapi.net?
En tout cas, nous les encourageons beaucoup à accroître leur soif d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ordinateur principalement, et ensuite l'internet. En tout cas, de continuer de fournir de l'effort. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont beaucoup de difficultés à avancer en informatique, notamment parce que déjà que les formations ne sont pas du tout très efficaces dans nos instituts supérieurs, dans nos universités, c'est pas très efficace. Ils sont obligés, en plus des cours qu'ils suivent, de fournir un effort, d'aller sur internet, d'apprendre, de s'acheter des ordinateurs. Ce n'est pas très facile. C'est pas très facile d'être informaticien au Congo. C'est pas facile. Alors, nous leur demandons de ne pas se décourager, de fournir beaucoup d'efforts, de contacter la Fondation Maracuja.
Par quel numéro?
Par le 081-519-28-05. Ça, c'est le numéro du président. Il y a un mail, bonjour.
Il y a une adresse mail aussi?
Oui, il y a une adresse mail, c'est maracuja@gmail.com. Voilà, c'est ça notre adresse email. Et puis, nous leur encourageons beaucoup à utiliser les logiciels libres, non, parce que ça leur offrira beaucoup de raisons dans le secteur de l'informatique.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Ganchot. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Maracuja. Nous souhaitons plein succès dans ce que vous faites et à la prochaine.
Merci beaucoup et plein succès à Radio Capi.